permettez, je me présenterai dans un instant, quand je parlerai peut-être plus de la radio. Mais je voulais enchaîner avec ce que l'Esprit est en train de nous dire. La parole qui est sortie tout à l'heure avec le don. Et je pense que le Seigneur fait bien les choses. Et je crois que c'est ce qu'il a déposé aussi sur mon cœur ce matin pour vous. Que vous soyez chrétien pendant de longues dates ou si vous venez de rencontrer le Seigneur a investi dans nos vies. Il a mis comme quelque chose dans nos vies pour être à son service. Et peut-être, pour certains, ils ont peut-être oublié. Le Seigneur veut nous rappeler ce matin cela. Peut-être d'autres, c'est un peu éteint. Et le Seigneur nous encourage à raviver ce don qu'il a mis en nous. Et je vous propose de lire dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. C'est en quelque sorte une double exhortation de Paul à Timothée. C'est de ça que je voulais partager avec vous. La double exhortation de Paul à Timothée. Au chapitre 1 Timothée 4, verset 14, il est dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée avait reçu donc un don de Dieu par prophétie et par imposition des mains de Paul. Et les circonstances ont fait que Paul devait partir en Macédoine, donc et a laissé Timothée à Éphèse pour qu'il s'occupe de l'assemblée. Mais la situation de l'Église était devenue difficile, peut-être comme dans toutes les Églises. Hein, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des gens à caractère fort, etc., sur le plan doctrinal et tout ça. C'était devenu un peu difficile pour Timothée, qui a manqué de se renouveler dans la présence du Seigneur. Et on voit que les dons spirituels peut-être ne se manifestaient plus comme avant. Et Paul, ayant pris connaissance de cette situation, a averti Timothée une première fois par ce texte que nous venons donc de lire, en lui disant de ne pas oublier de ne pas négliger plutôt le don qu'il a reçu. Nombreux sont aussi nos frères et sœurs hein, aujourd'hui qui ont pendant longtemps été une bénédiction pour nos assemblées parce que à l'écoute de Dieu, l'exercice des dons. Mais voilà que quelques situations peut-être difficiles, spirituelles, ça peut être aussi familial, professionnel et autres sont intervenus et puis plus rien dans la vie de ses frères et sœurs. Les dons ont été étouffés, plus d'encouragement comme c'était avant, même plus d'engagement dans la vie de l'Église, plus de dons peut-être même financiers pour encourager l'Église, tout baisse en tout cas. Plus de prières par la foi, ça peut arriver dans nos vies. Et quand ça arrive, tu vois, c'est toute l'assemblée qui en pâtit, toute l'assemblée qui peut souffrir. Et il semble que cette première remarque que Paul avait faite à Timothée n'est pas portée de fruits. Alors, Paul, étant en prison, a été averti par un certain Onésiphore de la situation de l'église d'Éphèse et de la situation de Timothée concernant les dons spirituels. Alors, Paul a insisté une deuxième fois auprès de Timothée et il lui a envoyé une deuxième lettre. Et c'est dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 3, il commence en disant « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Paul donne une deuxième exhortation ici à Timothée, de ranimer le don de Dieu qui était en lui, de rallumer le don de Dieu, de ranimer ses forces, son esprit, attiser le don de Dieu. Et on voit que c'est Timothée qui était responsable de l'entretien de cette flamme qui était en lui. Mais il y avait eu une petite négligence, je pense, qui a conduit à ce que petit à petit ça s'éteint. Alors Paul a encouragé Timothée à se placer devant Dieu afin de rallumer ce feu. Il n'est jamais trop tard, hein. On peut encore le faire aujourd'hui, quel que soit notre âge, pour rallumer ce feu qui est en nous. Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. On voit que dans le cas de Timothée, à cause de certaines circonstances, eh bien, il était amené à négliger un peu ce don spirituel. Si on considère, par exemple, l'image d'un canal par lequel le Saint-Esprit creuse en nous, le canal qu'il a creusé en nous et par lequel il met ses inspirations, c'est nous, à notre niveau, qui devrions être responsables de l'entretien de ce canal-là pour que le Saint-Esprit puisse travailler. En gardant donc une foi ferme en Dieu, ça maintient ce canal-là propre pour que le Saint-Esprit travaille. C'est notre devoir de tenir compte de ce canal-là et de veiller qu'il soit pur devant Dieu en marchant selon l'Esprit. Si nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 10, verset 1, là, ce chapitre attire notre attention sur quelque chose d'important. Il est dit là-bas que les mouches mortes infecte et fermente l'huile du parfumeur. Ecclésiaste 10, verset 1. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous laisser nous endormir sur le plan spirituel. Les circonstances de la vie, les difficultés, les épreuves agissent un peu comme le brouillard et minent notre bonne santé spirituelle si on ne prend pas garde. Alors, dans l'Antiquité, pour placer ce texte de l'Ecclésiaste dans son contexte, c'est que les parfums et les huiles précieuses, c'était souvent utilisé, c'est pas pour des rituels religieux, c'était utilisé pour la médecine aussi, pour les soins personnels. Et ces huiles étaient créées avec beaucoup, beaucoup de soins Et elles étaient extrêmement précieuses. Cependant, s'il y avait une petite mouche qui tombait dans l'huile et qui mourait, elle pouvait provoquer une fermentation et ça gâche un peu le parfum entier. Ça, c'est le contexte, le sens littéral de ce verset qu'on a lu. Mais c'est symbolique aussi. Ça veut dire qu'une chose insignifiante peut avoir un impact disproportionné et peut corrompre quelque chose de précieux et de grand. Est-ce que nous avons reçu, la vie que nous avons reçue de Dieu, c'est quelque chose de précieux et c'est grand. Mais si on ne veille pas, c'est une toute petite chose comme ça qui vient dans nos vies et puis qui gâche tout ça. Donc ce contexte, ce passage nous invite à veiller, même dans les petits détails. On peut se dire, non, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église, je zappe une fois, deux fois, trois fois, et puis après, il y a des gens comme ça qui ont disparu dans la nature en commençant juste petit comme ça. Et je connais des gens qui étaient vraiment engagés dans l'église et aujourd'hui, ils ne veulent même plus qu'on parle du Seigneur. Et je me dis, mais c'est parti d'où? Peut-être d'une petite négligence. C'est pour ça que la parole de Dieu nous incite à veiller. À veiller chaque jour, à être vigilant. Donc soyons vigilants. Les petites négligences peuvent aussi entraîner des conséquences importantes. Donc surveillons nos vies, évitons les influences nuisibles à la foi et à la vie chrétienne. Ne soyons pas incrédules par rapport aux dons que Dieu met en nous ou même aux dons spirituels qui sont dans l'Église. Si nous négligeons tout cela, ce sont des petits facteurs qui vont nous empêcher de grandir spirituellement. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Romains chapitre 11, verset 29, nous apprend que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il nous a appelés et son désir, c'est ça, c'est que nous puissions le servir. Comme on a entendu, il y a des gens qui ont servi le Seigneur pendant des années et qui tiennent encore comme si c'était tout nouveau aujourd'hui. Et Dieu, ça plaît effectivement à Dieu. Il a investi en nous, il ne se repent pas de ses dons qu'il a investis en nous. Mais c'est à nous de veiller et ne pas négliger ces dons que Dieu a investis dans nos vies. Bon, peut-être on va se dire, ça va, je suis âgé, donc je n'ai plus rien à faire. Non. On voit dans l'Ancien Testament, il y a des exemples de gens, des personnages, des gens comme vous et moi, qui avaient aussi des faiblesses et tout, mais Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés. On peut prendre, voyez, Isaac et Rebecca, par exemple, dans Genèse chapitre 25, et puis jusqu'au chapitre 27, c'est des gens que Dieu a utilisés, mais ils avaient aussi eu quelques faiblesses avec leur favoritisme envers leur fils jumeau, qui a entraîné des conséquences un peu douloureuses aussi dans la famille, parce qu'il y a eu exil, il y a eu séparation, c'était quand même un peu dur pour cette famille, et même aussi pour l'histoire biblique. Mais ça n'a pas empêché Dieu vraiment de les utiliser. Il y a aussi d'autres qui ont souffert pour le Seigneur, comme Job, par exemple, qui a connu des épreuves, mais qui a gardé la foi. Job a gardé la foi. Il a vu ses petits-enfants jusqu'à la quatrième génération, nous dit la parole. Bon, c'est une expression qui veut dire que Job a été prospère, il a été béni. Voyez, lui qui a souffert. Voyez, peut-être on peut passer aussi par des temps difficiles, on se pose des questions, comme Job, il s'est posé des questions, Mais restons fidèles à l'appel de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne se repent pas des dons qu'il nous donne. Il est fidèle. Il y a d'autres, comme Ruth. Ruth, avec son dévouement envers sa belle-mère, Naomi, sa fidélité, c'est un des exemples formidables de la fidélité, d'amour et de foi en Dieu. Ruth, ce livre, il est formidable. La fidélité au service de Dieu. Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Est-ce que vous allez persévérer? Le livre de Ruth, c'est vraiment ça, un exemple de rédemption et d'inclusion. Ruth était une Moabite, et donc elle a suivi le peuple juif, et puis elle s'est identifiée, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est un engagement. Dieu accueille tout le monde. Dieu accueille nous tous. Peu importe votre origine, Dieu vous accueille. Ne dis pas, ah non, moi je ne suis pas d'ici, donc je suis là. Non, on est frères et sœurs. Dieu nous accueille et on est au service d'un même Dieu. Donc, ne vous séparez pas, ne vous éloignez pas des autres. Je crois que Dieu nous accueille tous et Dieu veut que nous puissions tous exercer le ministère ou le don qu'il a mis en nous. Et toujours dans l'Ancien Testament, ces exemples de personnes qui ont choisi de suivre Dieu, on peut citer la prise de position de Josué, chapitre 24, verset 15. Il dit ceci: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il dit ça au peuple, hein, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient nos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement fort. Vous savez, dans cette histoire de Josué, chaque tribu d'Israël était défiée par son chef pour se positionner au moment de rentrer dans l'héritage. Et l'enjeu, c'était l'idolâtrie. Quel Dieu faut choisir? Quel Dieu? Et là, Josué, lui, il savait, il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est notre choix aujourd'hui? Moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Peut-être que on va se dire, oh, c'était avant, il y avait des idoles et autres. Aujourd'hui, bien que les idoles, ce ne soient plus comme des statues de pierre ou de bois, comme dans les temps bibliques, eh bien, l'humanité continue de faire face à des idoles modernes. Et on devrait choisir, hein, on doit choisir aujourd'hui. Ces idoles modernes rivalisent avec la place de Dieu, la place que doit occuper Dieu dans nos vies. Et on doit veiller. Ça inclut peut-être les loisirs, qui peuvent devenir des idoles, le matérialisme, l'humanisme, même aujourd'hui, et plein d'autres. Pour le matérialisme, c'est en quelque sorte l'obsession que l'on a pour les possessions, pour les richesses, ça devient une idole aujourd'hui pour certaines personnes. Et ça pose un problème spirituel parce que le matérialisme détourne notre cœur de Dieu et nous pousse à chercher le bonheur, la sécurité dans toutes ces choses éphémères qui sont là, plutôt que de nous concentrer sur Dieu. Et la Bible nous avertit dans Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus nous rappelle que les richesses terrestres sont temporaires, tandis que les valeurs spirituelles sont éternelles. Et nous sommes face à ce choix aussi aujourd'hui. La question nous est posée. Je parlais des plaisirs aussi. du divertissement qui peuvent devenir des idoles dans une époque marquée par l'abondance de loisirs, de divertissement, les réseaux sociaux, les jeux vidéo pour certains, ou même certains sont en quête de sensations fortes, hein, dans ce monde. Et ça devient un problème spirituel. Parce que lorsque les loisirs occupent une place centrale dans notre vie, ça peut nous empêcher de nous consacrer ou de consacrer notre temps à Dieu, à la prière, à la méditation de la parole. Je me souviens à un moment donné, moi aussi je me suis converti, j'avais 16 ans. Et puis j'aimais beaucoup le foot, donc des fois j'étais partagé entre aller à l'église ou aller au foot. Et c'était vraiment fort, j'ai dû me batailler un peu par rapport à ça, mais j'avais le choix à faire. Aller aux réunions de prière pour grandir dans la foi et tout ça. Et ça, on fait face aujourd'hui encore à ces idoles, hein, qui sont là et qui peuvent nous empêcher spirituellement d'avancer. Et la Bible dit, même dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez ? Donc la quête excessive de plaisir peut nous éloigner de notre vocation à vivre pour glorifier Dieu et pour être au service de Dieu. Donc là aussi, la parole de Dieu nous invite à veiller tout simplement. Je parlais de l'humanisme tout à l'heure qui place l'homme au centre de tout et qui exalte la capacité de l'homme à faire de grandes choses. Et en même temps, qui exclut Dieu. Parce que quand on place l'homme au centre, ben on exclut Dieu. Et on le vit, on le voit aussi dans notre société aujourd'hui, où on a presque chassé Dieu de tout. C'est l'homme. Et d'ailleurs, il y a des possibilités donc, de faire en sorte que l'homme vive éternellement, vive sans mourir. C'est l'humanisme, tout centré sur l'homme. Et ça exclut Dieu. Vous voyez, des gens qui font de bonnes choses, pour le bien de l'homme, ils vont dire, pour que l'homme soit super bien. Et Dieu là-bas, où est sa place? Où est la place de Dieu? Quand on exalte l'homme, on néglige, on marginalise Dieu. Et on veut son indépendance, et c'est ça qui marque notre société aujourd'hui. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas dépendre de lui. On veut être indépendant. L'autonomie absolue qui devient une idole et qui s'oppose à Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, effectivement, on doit veiller. Et la Bible nous avertit, là aussi dans Romains 1, 25, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est Dieu qui doit être au centre. C'est lui que nous devons glorifier. C'est lui que nous devons servir. Il y a plusieurs autres idoles, mais nous pouvons aujourd'hui les surmonter, n'est-ce pas, en cherchant d'abord Dieu. Comme nous le dit Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ça. Je crois que les plus sages choisissent Dieu pour avoir tout. On choisit Dieu, on a tout. Pratiquons donc la gratitude de manière simple. Engageons-nous dans une relation profonde avec Dieu. Les idoles modernes, bien que différentes des statues anciennes, représentent une menace spirituelle aujourd'hui. Et ces idoles cherchent à occuper la place centrale que Dieu seul mérite. C'est Dieu seul qui doit être au centre. Donc, je nous invite effectivement à veiller, à ne pas nous laisser prendre, à faire comme Josué, prendre une position ferme aujourd'hui en disant, je veux servir, moi, le Seigneur. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de choix aujourd'hui face à toutes ces idoles modernes. Choisissons de suivre Dieu, choisissons de le servir, lui seul et pas d'autres. On pourrait citer d'autres dans l'Ancien Testament, mais je me plais à citer celui-là, un homme dont on ne parle pas souvent, il s'appelle Obed-Edom, qu'on trouve dans 2 Samuel chapitre 6, verset 10. Est-ce que vous vous souvenez, le contexte, lorsque David a été couronné roi, il a voulu faire rentrer l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et lors du transport de l'arche, il y a un incident tragique qui est survenu. Uza, qui a voulu stabiliser l'arche qui penchait, donc a été frappé subitement et il mourut. Alors, David, effrayé, avait arrêté son plan. Et c'est Obed-Edom qui avait accueilli l'arche de l'Éternel dans sa maison. Pendant 3 mois, l'arche est restée dans la maison de cet homme. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été béni. Cet homme a été béni, lui et sa maison étaient bénis. Vous voyez ? Quand on accueille le Seigneur dans son cœur et dans sa maison, c'est la bénédiction. Et cet homme, vraiment, il a été l'hôte de l'arche. C'est un exemple de foi et de service. Vous voyez, peut-être que David, on cherchait quelqu'un pour accueillir l'arche de l'État. Peut-être tout le monde avait peur de s'engager. Mais voilà quelqu'un qui s'est porté volontaire pour faire ça. Est-ce qu'on est prêt? On est volontaire quand il y a peut-être un service à rendre aussi dans l'Église. Sachez que oui, si on accueille ainsi le Seigneur et au nom du Seigneur, je crois qu'il y a la bénédiction qui s'ensuit. Comme cet homme a été béni. Et quand on lit les Écritures dans 1 Chronique, on voit qu'il a même été nommé portier et musicien quand David était prêt et qu'ils allaient ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Cet homme était parmi eux, parmi des gens qui chantaient, qui voilà, accompagnaient l'arche. Vous voyez, donc le Seigneur l'a honoré, il a continué dans la fidélité. Vous voyez, à partir de ce jour-là, il a continué à faire d'autres services pour le Seigneur. Peut-être, nous aussi, aujourd'hui, ce n'est pas la fin de notre service. Il y en a encore d'autres. Le Seigneur a encore d'autres choses à faire, à nous donner. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Sachez que si on accueille, si on accepte, c'est la bénédiction. Accueillir l'arche de Dieu aujourd'hui, c'est inviter Dieu dans nos vies. C'est une source de bénédiction spirituelle et matérielle. C'est une source de bénédiction. Obed-Edom, donc il a continué de servir le Seigneur. C'est une fidélité durable dans ce rôle spirituel que cet homme a joué. Et le Seigneur nous invite à cela aussi, à rester fidèles pendant de longues années qu'il nous donnera de vivre, qu'on puisse le servir. Qu'on puisse le servir. Quand je te vois des serviteurs de Dieu, âgés, pliés par l'âge, qui continuent d'apporter le message, les encouragements, je dis, wow, Seigneur, tu es fidèle. On a un pasteur de 95 ans qui, quand il prêche, mais sa voix encore, ça va fort, hein? Et il continue. Quelle fidélité! Et Dieu aussi, il est fidèle, il ne renie pas les dons qu'il a mis en nous. Et son désir, c'est qu'on aille jusqu'au bout, à son service, sans relâche. C'est ça ce que Dieu veut. Et puis pour terminer, Néhémie aussi. Néhémie qui, lui, il avait mis toutes les familles au travail pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et il avait fait un plan, il a divisé donc la muraille en sections, assigné chaque portion spécifique à chaque famille. Et chacun contribuait, n'est-ce pas, selon ses capacités. Et il y avait, bien sûr, des affrontements, de l'opposition. Quand on est au service du Seigneur, il y a de l'opposition. Et il faut tenir bon. Et quand je vois l'exemple de Néhémie, ça m'encourage. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Il y avait d'ailleurs même divisé le. Il y avait une partie qui travaillait, une partie qui veillait. Et la Bible dit que certains même tenaient une arme d'une main et travaillaient de l'autre. Ça montre la détermination qu'ils avaient face à l'opposition. Est-ce qu'on est déterminé à résister à l'ennemi? Parce que quand on s'engage pour au service du Seigneur, peut-être il y a certains qui vont se moquer de nous. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah, oh, ben toi, dans l'église, que tu fais? Tu fais que nettoyer l'église et tout ça. Mais est-ce qu'on est déterminé à aller plus loin? Et on peut avoir de l'opposition de l'extérieur aussi, hein? L'opposition de l'ennemi de nos âmes. Mais la Bible dit résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. Tenons ferme, résistons par la prière, par la vision, la collaboration, en impliquant tout le monde. Et c'est ce que Néhémie avait su faire. Il avait impliqué toute la famille. Alors chacun s'est senti valorisé. Et c'était devenu une mission collective. Je crois que en tant que responsable d'église, on attend cela, que des gens se lèvent. Ce n'est pas forcément le désir des pasteurs de tout faire. Mais il veut, le souhait de chaque pasteur, c'est ça, qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui puissent aussi prendre des responsabilités au service du Seigneur, que ce soit une œuvre collective où chacun apporte le don qu'il a reçu du Seigneur. Une seule personne n'accumule pas tous les dons. On a chacun reçu quelque chose du Seigneur et qu'on peut le mettre au service du Seigneur. Et quand vous lisez Néhémie, ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes les familles, donc il y avait les parents, les enfants, tous, ils travaillaient ensemble. C'est pas que les parents, bon, ils vont travailler puis ils vont donner les enfants au babysitter, non. Ils sont tous ensemble et ils travaillaient. C'est-à-dire que l'engagement, si c'est possible, c'est toute la famille. Là aussi, si c'est possible, pour travailler pour le Seigneur. En tout cas, je nous encourage à veiller effectivement sur le don que Dieu a investi en nous. Si ce matin, vous avez oublié, ou vous vous dites non, mais moi, j'ai rien reçu, la parole de Dieu nous dit non, tu as reçu quelque chose. Peut-être tu as reçu quelque chose dans le temps, tu as travaillé, et puis ben, ça disparaît un peu. Le Seigneur dit non, il faut rallumer cette flamme-là. Il ne faut pas la laisser éteindre. Il faut l'entretenir. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire pour nous. Et je souhaite effectivement que notre sœur, qui a été reconnue aujourd'hui, sache qu'il y a encore des choses à faire pour le Seigneur dans cette église, au nom du Seigneur. Et peut-être il y en a qui commencent maintenant. Je crois que le Seigneur a encore plein de choses à faire. Et c'était ce que j'avais à cœur vraiment de partager avec vous ce matin, une double exhortation que Paul avait donnée à Timothée. Que ce soit aussi une exhortation pour chacun de nous ce matin au service de notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.